Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour cette édition spéciale du journal d'ONU Info. Édition spéciale pour cause de tempête de neige à New York. Nous vous proposons de réécouter une interview réalisée en 2016, interview de Rachel Gaugois, présidente du conseil d'administration de l'ONEF, entendez, Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de sa venue à l'ONU à New York pour participer aux travaux de la Commission de la condition de la femme en 2016, Isabelle Dupuis lui avait tendu son micro.
Rachel Gaugois a fait de l'égalité entre les sexes son cheval de bataille depuis plus de 40 ans. Cette année, elle a fait le déplacement jusqu'au siège de l'ONU à New York pour participer aux travaux de la Commission de la condition de la femme. En premier lieu, elle fait le point sur les principaux défis que rencontrent ses consoeurs.
Les défis auxquels font face les femmes en Côte d'Ivoire sont multiples. Je pourrais parler de l'autonomisation économique qui n'est pas encore devenue une réalité, pour laquelle il faut de véritables réformes, de véritables programmes soient mis en place et qu'il y ait un accompagnement conséquent pour que les femmes puissent s'en sortir. L'autre élément, c'est l'autonomisation politique. Ça, c'est l'un des plus grands défis, puisque les femmes, dans les instants de prise de décision, depuis un certain nombre d'années, l'ONU parlait d'au moins 30%. Nous sommes très loin de ce pourcentage. Nous avons 9,8% des femmes à l'Assemblée nationale, plus de 5% des femmes dans les administrations locales. Et nous avons aussi 2,9% des femmes dans les conseils régionaux. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais pas de 30% des femmes députées, pas de 30% des femmes dans les conseils régionaux. Quand nous prenons le gouvernement, pour certains, c'est 25%. Pour moi, c'est 20,9%. Ça veut dire qu'il y a des ministres qui sont au palais de la présidence, qui sont au nombre de 7, et il y a 36 ministres. Quand moi, je les additionne, j'ai 43. Et quand je fais le point, ça fait 20,9. Donc ça, c'est un très grand défi pour lequel l'État de Côte d'Ivoire doit prendre les taureaux par les cornes et en tout cas faire des réformes tout azimut pour au moins arriver aux 30% réclamés par les Nations Unies. Et l'autre élément qui est très important au niveau des femmes rurales, c'est le problème de l'alphabétisation. Elles sont plus nombreuses, elles sont près de 60% des femmes analphabètes. C'est quand même beaucoup. Et pour cela, il faut qu'il y ait un programme spécifique pour aider les femmes, en tout cas à apprendre à lire et à compter, et même à lire leurs propres documents sans avoir à faire appel à des personnes extérieures pour ceux qui vont s'insérer dans leur intimité. Puisque ne sachant pas lire, elles sont obligées de donner leur courrier à des gens qui vont comprendre ce qui est contenu alors que le contenu leur était uniquement réservé. Et puis l'autre défi, c'est la mortalité maternelle. Beaucoup de femmes continuent de mourir encore en couche. Ça aussi, c'est une préoccupation majeure.
De votre point de vue, les autorités sont-elles suffisamment impliquées? Ont-elles suffisamment conscience de l'ampleur des défis auxquels font face les femmes en Côte d'Ivoire?
Je dirais oui, parce que notre pays est l'un des rares pays qui ait ratifié tous les instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux. Notre pays a sa constitution qui proclame haut et fort l'égalité entre les hommes et les femmes dans les différents secteurs d'activité. Mais le hic, après tout ça, on n'avance pas. Mais c'est quoi qui bloque? C'est quoi qui bloque? Bon, peut-être que la volonté politique n'est pas suffisante, mais nous continuons de faire des actions de plaidoyer et nous pensons que le moment dans lequel nous trouvons est certainement favorable. Puisque le président de la République a annoncé la révision de la Constitution, déjà nous avons organisé un atelier pour y insérer, pour la rendre plus sensible aux gens. Déjà, c'est ce que nous avons fait et nous sommes en train de travailler en collaboration avec le ministère de la promotion de la femme, de la famille, de la protection de l'enfant, pour que le gouvernement de Côte d'Ivoire légifère davantage pour que les prochaines élections qui sont relatives aux législatives, aux municipales et aux régionales, et que les femmes puissent faire une très grande percée. Nous y croyons et nous continuons d'y travailler.
On On parle beaucoup du poids que peut avoir la tradition, une perception un peu stéréotypée des femmes qui veulent qu'elles soient limitées au foyer. Est-ce que vous constatez au long de votre travail une évolution par rapport à l'état d'esprit des hommes? Est-ce que vous voyez en eux des alliés ou est-ce qu'il faut encore les sensibiliser?
Je dirais qu'ils sont des alliés. Moi, je fais la part entre les communautés qui sont en milieu rural et les gens de la ville. Nous travaillons en milieu rural avec les communautés, avec les leaders, tout, dans des zones supposées ou réputées difficiles où nous avons réussi à renverser les tendances des zones musulmanes. Aujourd'hui, dans un certain nombre de villages où nous travaillons, plus de 60, les femmes héritent des terres de leurs défunts maris. Les filles héritent des terres de leurs défunts pères. Les femmes, avant qu'ils ne siègent pas à la notabilité, elles participent au conseil de la notabilité. Elles participent à des réunions. Les choses changent. Mais les résistances, c'est en milieu urbain. Ça dit que ce sont les gens de la ville, les gens qui ont été à l'école, qui sont instruits, qui pensent que l'évolution de la femme est à leur détriment. C'est-à-dire que si une femme devient députée ou ministre ou quoi, ben elles viennent pour prendre leur place. Ils n'ont pas de place. La Côte d'Ivoire est comme une mère patrie qui a des filles et des garçons. En tant qu'une mère, elle doit équitablement donner la possibilité, la chance aux filles et aux garçons de participer au développement de leur pays. Et je parlais du milieu rural. Il y a d'autres zones où nous avons travaillé, où il y a eu des changements. Donc, le changement s'opère à la base. Les résistants se font au niveau des gens qui sont en ville, les intellectuels qui pensent que les femmes vont prendre leur place. Mais la lutte continue. Nous faisons des hommes nos alliés. Progressivement, nous les amenons à comprendre qu'il ne s'agit pas de similitudes. Entre deux hommes, il n'y a pas de similitudes. Entre deux femmes, il n'y a pas de similitudes. À plus forte raison, entre une femme et un homme, il ne peut pas avoir de similitudes. Ce dont nous parlons, c'est l'égalité en droit et l'égalité dans les faits. C'est ça qui est important.
Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à choisir ce chemin professionnel, ce chemin de l'engagement?
Bien, je voudrais vous dire tout simplement que moi-même, il y a eu la première année internationale de la femme en 1975 qui a eu lieu à Mexico. Et après, les différents gouvernements ont créé des mécanismes nationaux de promotion de la femme. Donc la Côte d'Ivoire, c'était en 1976. Et ce ministre était à la recherche des cadres féminins. Moi, j'étais à l'ENA. C'est ainsi que j'ai été identifié à venir y travailler. Donc, depuis 1980, j'étais dans ce ministère qu'on appelait le ministère de la condition de la femme, qui a évolué pour être aujourd'hui ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Donc, ayant appris à travailler sur le terrain, ayant vu les difficultés dans lesquelles se trouvent les femmes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, je me suis engagé et je me dis que moi, j'ai eu la chance d'aller à l'école, de réussir. Mais il y a bon nombre de femmes qui n'ont pas eu cette occasion, qui sont là, qui ont besoin qu'on les aide. Donc, je me suis engagé et j'y suis jusqu'à ce que Dieu m'appelle. Parce que c'est tellement passionnant d'aider. Je vais vous raconter une petite histoire. Dans une zone où les femmes ne savaient pas lire et écrire, on a eu à mettre en place un programme d'alphabétisation. Ces femmes qui ont appris à lire, à écrire et à compter, aujourd'hui, ont acquis du pouvoir. Leur époux nous sollicite pour aller aussi les alphabétiser. Parce qu'il se trouve maintenant, les femmes ont le pouvoir, elles voient plus clair que vraiment. Ça veut dire que ça change. Et quand nous allons dans ces localités, que les femmes nous voient arriver, nous ne sommes plus que des présidents de la République. Parce que nous venons leur dire, les potentialités sont en elles. Il faut qu'elles en profitent. Et nous leur donnons l'occasion de tirer profit de toutes les intelligences qu'elles ont en elles. Et je crois que toutes ces potentialités, pour elles, c'est formidable. Et pour nous aussi, c'est merveilleux.
C'est un cadeau magnifique que vous leur faites, en tout cas. Cette confiance.
On se fait cadeau mutuellement. Nous nous faisons cadeau mutuellement et nous pensons que c'est notre devoir et que c'est notre mission. Seulement, nous souhaiterions que l'ONU, ONU Femmes, puisse nous y accompagner, ce qui n'est pas suffisant. ONU Femmes, c'est bien, nous l'avons rêvé, que toutes les entités qui traitent des questions de l'égalité se mettent ensemble. C'est devenu une réalité. Maintenant, il faut que les moyens suivent pour que l'ONU Femmes puisse s'acquitter de sa mission.
Voilà, fin de cette édition spéciale du journal d'ONU Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.